Studio Tamani, voici les informations en français.
À l'écoute du programme du Studio Tamani sur les ondes de ses radios partenaires, il est 18h, le titre de cette édition. Les membres du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation sont désormais connus au nombre de 140. Pour certains, le casting est presque parfait. Naissance à Bamako, ce 30 janvier 2024, du premier enfant médicalement assisté à l'hôpital du Mali. Selon les responsables de la structure médicale, la mère et l'enfant se portent bien. Les quarts de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 commencent demain vendredi. Des observateurs affirment que les dernières rencontres seront pleines de surprises. Voilà pour le sommaire de cette édition qui vous sera présentée par Imran Akilo Maïga. Bonsoir à toutes et à tous. Les membres du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale ont été nommés hier par décret présidentiel. Ils sont au nombre de 140 ici de toutes les communautés et de toutes les confessions religieuses. L'ancien premier ministre Ousmane Issoufou Meïga en est le président. Un casting qui fait presque l'unanimité. Mariam Koulibaly pour le point.
Ces différents acteurs désignés pourront relever les défis selon Brahima Sissoko. L'analyse politique se fie au fait que beaucoup de ses membres ont été impliqués à un moment donné dans la gestion du pays. Il revient sur les missions qui leur sont assignées.
Dans leur cahier des charges, on remarque qu'il s'agit de la préparation et de l'organisation du dialogue intermalien. Il s'agit aussi de la coordination et du contrôle des activités, des différentes activités qui vont être menées non seulement à l'intérêt du Mali, mais aussi à l'extérieur du Mali. Je pense que les Maliens peuvent accorder leur confiance à ces comités.
Le sociologue Yida Seydou Dial dit avoir apprécié la diversité des profils choisis. Il aurait souhaité cependant voir plus de légitimité traditionnelle sur la liste.
Et l'heure n'est pas aussi à critiquer cette liste. Moi, je pense que maintenant, l'heure est remise en travail parce qu'aujourd'hui, le Mali et les Maliens ont besoin vraiment de la paix. Et quand on prend du côté de Bois, du côté de Songwaï, du côté de Touareg, des Arabes, et du fait que tout le monde est représenté, donc c'est pas mal, vraiment, c'est une commission bien réfléchie.
Retenons que cet organe de dialogue national a été mis en place après l'annonce de la fin de l'accord d'Alger par les autorités de la transition.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Trois semaines après la fermeture de l'axe Meneka en Songo par des hommes armés, la situation à Meneka n'a pas beaucoup évolué. Les camions partis de Gao la semaine dernière ont refait le chemin à l'envers. D'autres informations font un cas également d'un déplacement massif des populations de la périphérie vers la ville de Meneka sous la menace d'hommes armés. Le point de la situation avec Mohamed Aga Iseifatan.
Des sources locales sur place confirment que les véhicules ont été stoppés à Hagana, à 105 km de la ville de Meneka, et n'ont pu atteindre la ville. Pourtant, une information relative à la reprise du trafic sur les trajets avait fait le tour des réseaux sociaux. Depuis le 10 janvier dernier, un seul camion est rentré dans la ville. Nos sources confirment également le déplacement de certains ménages vers la ville de Meneka. Selon elles, des hommes armés auraient intimé à ces populations de déguerpir des liens. En attendant, les tarifs des denrées alimentaires continue de grimper. Pour illustration, le litre d'essence est monté à 10 000 francs CFA, le kilo de riz entre 800 et 1 000 francs CFA. Sur place, la population alerte sur des graves conséquences si le trafic ne reprend pas sur l'axe Ansongo-Meneka, un axe vital pour l'approvisionnement de cette région empreinte à l'insécurité depuis plus de 10 ans.
Récit de Mohamed Aga Issa Feitan. Le premier enfant de la procréation médicale assistée est né ce mardi 30 janvier 2024 à Bamako. L'annonce a été faite par les responsables de la structure médicale basée au sein de l'hôpital du Mali. Selon eux, la mère et l'enfant se portent tous bien.
Les journaux de la CAN, suivez l'actualité de la CAN sur Studio Tamani.
Mali, Côte d'Ivoire, Angola, Nigeria, Guinée, RDC, Afrique du Sud, Cap-Vert. Voilà les affiches des quarts de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les rencontres se jouent ce vendredi et samedi. Parmi ces huit nations, quatre ont remporté au moins une fois la compétition. Mais pour des observateurs, ce paramètre est insuffisant pour pronostiquer dans ces matchs. Ziadata Maïga.
La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a déjoué tous les pronostics. Ni le Sénégal, vainqueur de la dernière CAN, l'Égypte, finaliste malheureuse de la dernière CAN, le Maroc, demi-finaliste au dernier mondial, n'ont pu atteindre les quarts de finale. Plus la compétition avance, plus les analystes se méfient de se prononcer sur le vainqueur final de la compétition. Parmi les 8 nations encore dans la course, seule la Côte d'Ivoire, hôte de la compétition, était annoncée comme un potentiel favori du tournoi, après une qualification miraculeuse et l'élimination du Sénégal. Les Ivoiriens vont ont-ils fait respecter ce statut? Difficile de le dire. La RD Congo et l'Afrique du Sud, respectivement vainqueurs de la CAN en 1974 et 1996, étaient moins attendus. Vont-elles pouvoir se maintenir dans la course à l'arrivée? Le Nigeria, autre vainqueur de la compétition en 1980, 1994 et 2013, reste désormais un gros morceau. La Guinée, le Mali, l'Angola, le Cap-Vert auront aussi à cœur de décrocher leur première étoile.
Des consultants sportifs préviennent que les matchs des quarts de finale seront très disputés. Ils estiment que chaque étape de la compétition a ses réalités. Selon eux, l'équipe malienne pourrait faire des surprises contre la Côte d'Ivoire dans ce quart de finale. Yacouba Tangara, consultant sportif, est joint par Sita Sidibé.
Par rapport au quart de finale, c'est des matchs difficiles, hein, parce que vous savez, depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, aucun match n'a été facile. Il y a certains favoris qui ont été déjà éliminés d'un forcément. Les matchs à venir s'annoncent difficiles. Bon, après, ça va, c'est juste des petits détails, de la détermination des uns et des autres. Peut-être le Nigeria, oui, le Mali, ce sont ces équipes qui m'ont un peu convaincu par rapport à ce qu'ils ont fait comme production de jeu et voir la finition et la générosité dans l'effort sur le terrain. C'est un match à élimination directe, il faut forcément un vainqueur. Par exemple, quand tu regardes, le Mali a une bonne défense, l'attaque ça marche bien aussi. La Côte d'Ivoire, c'est les deux extrémités. Donc, ça veut dire que quand tu fais une comparaison entre les deux formations, forcément le Mali arrive un peu au-dessus.
Comme vous le savez, le samedi 3 février, les Aigles du Mali croiseront le fer avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Déjà, cette rencontre suscite beaucoup de tensions des côtés, notamment sur les réseaux sociaux. À Bamako, des supporters maliens formulent des messages d'apaisement. Ils se sont exprimés au micro de Sali Sissoko.
Et si le Mali gagne, ou bien la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui gagne, ouais. Bon, on veut pas la bagarre.
Mali gagne ou Mali... Que le Mali gagne ou pas, je demande aux supporters de garder leur calme, qu'ils comprennent tous que nous sommes des frères.
Si le Mali gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Si la Côte d'Ivoire gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Et puis nous sommes voisins encore. Donc, bon match à tous.
Il faut que les supporters soient un peu calmes. Le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays voisins. Les diasporas maliens qui se trouvent en Côte d'Ivoire, bon, quand les Maliens font une victoire, il ne faut pas qu'ils se manifestent parce qu'ils sont dans un terrain étranger. Quand ils se manifestent là-bas, ils peuvent avoir des bagarres entre eux et les Ivoiriens.
Que personne n'affronte personne, qu'on ne s'attaque pas au bien d'autrui.
Un quadruplé dans une finale, cela s'est passé une seule fois dans l'histoire de la CAN. Il a été réalisé par un Congolais, Hamza Toutouré.
Son nom reste gravé dans les annales de la CAN. Ndaye Moulamba, l'attaquant qui portait seul l'équipe du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Il reste le meilleur buteur de l'histoire dans une phase finale de la CAN avec 9 buts. Et cela s'est passé en 1974. En finale de la compétition remportée, 4 buts à 1 contre la Zambie, il inscrit les 4 buts de son équipe. Auparavant, il avait fait trembler à 5 reprises les filets de ses adversaires, ce qui fait de lui, le meilleur buteur du tournoi, avec 9 buts, soit la totalité des buts marqués par son pays à cette CAN.
La 20e édition du festival sur le Niger Ségou Art s'est ouverte ce mercredi soir sur les berges du fleuve Niger à Ségou. Le thème retenu est jeunesse et tradition. Selon la commission d'organisation, au moins 30 000 festivaliers, 400 artisans et acteurs culturels et 500 exposants provenant d'une trentaine de pays prennent part à ce rendez-vous annuel d'art et de culture. Le point avec notre envoyé spécial Intala Akbilal.
Bienvenue à Ségou, vous êtes chez vous, Aou Bismillah. C'est en ces termes que Nouhoun Diara, le maire de la commune urbaine de Ségou, a souhaité la bienvenue à tous les festivaliers et personnalités invités à l'ouverture de cette 20e édition.
Je remercie tous les festivaliers exposants pour leur présence à Ségou, pour célébrer avec nous la diversité de l'artisanat et des produits agroalimentaires du Mali et d'ailleurs, dans la paix, la communion et le vivre ensemble à travers une offre culturelle riche et variée.
Il est difficile de relater les bienfaits du festival si le Niger a annoncé le chef du cabinet du ministre. ministre de la Culture. Selon Yamoussa Fofana, le festival sur le Niger a permis de relancer les économies locales, valoriser les produits locaux et attirer des investisseurs.
Nous voici donc à la 20e édition de la foire artisanale et agricole de Ségou, qui consiste à créer un marché à travers l'organisation d'une exposition-vente, la valorisation et la promotion des produits de l'artisanat d'art et agroalimentaire au bénéfice des populations.
Il faut noter qu'avant le lancement officiel, le volet traditionnel a aussi été respecté. Damonson Diara, le roi de Ségou, avait déjà autorisé les festivaliers à décharger leurs bagages et à boire de la bière locale et faire la fête. Comme le dit si bien l'expression ségouvienne, Aousera, Yandeye, Ségouye. De Ségou, Intala Akbilal pour Studio Tamani.
Voilà, ainsi se referme cette édition qui vous a été présentée par Imirana Akilo Maïga. Dans quelques instants, vous aurez le grand dialogue de ce soir qui est une rediffusion du 29 janvier dernier qui avait pour thème CEDEAO, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, claque la porte. Merci de l'avoir suivi. La petite enfance ou encore le jardin d'enfants est un passage obligatoire pour certains parents, une manière pour ces derniers d'initier tôt l'enfant à l'apprentissage, mais aussi de le préserver contre certains actes de vagabondage. Néanmoins, d'autres parents restent attachés à l'éducation en famille assurée par des grands-parents. Toutefois, le Centre de développement de la petite enfance indique que l'école maternelle est capitale pour l'enfant afin de stimuler et développer son sens connotatif. Ses responsables voient plutôt une complémentarité entre l'école et la famille, mais comment combiner les deux? Quel rôle joue l'État? Les explications dans notre magazine Tous les enfants du Mali, réalisé et présenté par Lala Aïcha Ouellet Infa avec le concours de nos correspondants locaux.
Les parents n'ont pas la même perception quant à l'apprentissage préscolaire. De Bamako à Sikasso, Gao en passant par Kai, des parents affirment que l'apprentissage au jardin stimule la connaissance de leur progéniture. Pourtant, d'autres souhaitent que leurs enfants soient éduqués selon les méthodes traditionnelles.
Je suis à Sikasso ici. Les crèches, les jardins d'enfants, ça permet à l'enfant d'ouvrir l'esprit.
Donc, famille traditionnelle, les vieilles femmes et les hommes d'un certain âge s'occupaient de l'encadrement des enfants à la maison.
Ici à Bafoulabé, c'est un endroit qui permet non seulement de familiariser les enfants, mais aussi leur apprendre les bonnes manières dans notre société.
Ça peut leur permettre d'apprendre des petites notions de base comme bonjour, bonsoir, A, B, C, D. 1, 2, 3, ainsi de suite.
Les directeurs du jardin d'enfants reçoivent tout type d'enfants, petits, moyens et grandes sections. Mais, selon eux, les quotas laissent à désirer. Pourquoi? Amadou Maïga, directeur du jardin d'enfants de la vallée de Tedi de Gao, évoque l'abandon de ces écoles à cause du non-paiement des frais scolaires par certains parents.
On a trois types d'enfants. La petite section, la moyenne section et la grande section, c'est les enfants que nous préparons pour la première année. Donc, on n'arrive pas à atteindre le nombre en fin d'année. Parce qu'il y a des parents qui commencent à payer jusqu'à un niveau et n'arrivent plus à tenir, ils retiennent l'enfant.
Les jardins d'enfants marquent le début du premier cycle pour un enfant dans le système scolaire malien. C'est ce qu'explique Mme Diallo Mariam Maïga, chef de division statistique à la cellule de planification au ministère de l'Éducation. Toutefois, elle regrette la fermeture des jardins d'enfants dans les zones à risque d'insécurité.
Il y a des compétences qu'il peut acquérir au niveau des jardins d'enfants, par exemple les jeux de couleurs, les quatre signes mathématiques. Si les enfants connaissent déjà ces notions au niveau des CDPE, il est facile pour l'enfant d'affronter directement le premier cycle du fondamental. Là où il y a les zones d'insécurité, les jardins d'enfants ne sont pas ouverts parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées dans certaines localités. Les parents sont obligés de garder les enfants à la maison.
Brahima Djabagaté, docteur en sciences de l'éducation et spécialiste en éducation préscolaire, insiste aussi sur l'importance des centres de développement de la petite enfance.
La faculté d'intégration est développée. Découvrir que le monde ne s'arrête pas à sa famille, ça peut développer aussi les capacités langagières de l'enfant. Il permet à l'enfant de connaître les mesures d'hygiène. Ils apprennent à respecter les parents. Ça, c'est des aptitudes que l'enfant découvre au jardin.
Toutefois, Dr Diabagaté exhorte les parents à inculquer les valeurs traditionnelles et sociétales à leurs enfants.
Lorsque vous commencez à leur dire de parler français, alors là, vous faussez tout. À un certain âge, l'enfant n'a même pas encore compris les mécanismes de sa langue maternelle. L'éducation de l'enfant doit être en harmonie avec les valeurs sociétales, les valeurs de respect, les valeurs de solidarité, les valeurs d'obéissance, la fraternité, l'esprit de partage, etc., etc.
À noter que pour l'année 2022-2023, le Mali compte 2686 centres de développement de la petite enfance selon les données de la cellule de planification du ministère de l'Éducation.
<t'en>